OK, I'm back again.
Bien, je suis de retour.
My presentation is titled The Beauty of the Islamic Renaissance, which could sound a bit odd.
Donc aujourd'hui, évidemment, on parlait de la Renaissance islamique, ça semble un peu étrange. Aujourd'hui, si on mentionne le mot islamique, généralement, c'est les images de terrorisme, d'extrémisme et de fondamentalisme qui apparaissent dans la tête des gens. Beaucoup de ces associations d'images ont une certaine réalité, mais en réalité, il s'agit d'une construction artificielle de services de renseignement et de manipulateurs qui veulent garder le monde divisé et occupé. L'islamisme islamique est un phénomène relativement moderne, mais s'est fait connaître lorsque les États-Unis, l'Angleterre et l'Arabie Saoudite ont financé les Moudjahidines en Afghanistan dans les années 80. Évidemment, le renseignement britannique avait financé dès les années 20 et 30 les frères musulmans comme des outils d'opposition au mouvement nationaliste dans le monde arabe. Cependant, les nations islamiques et les sociétés islamiques en tant que telles sont aussi à blâmer parce qu'ils ont négligé les aspects scientifiques, philosophiques, artistiques de l'héritage de la culture islamique. On entend souvent des déclarations nostalgiques, des discours pleins de fierté vide sur les grands accomplissements de l'islam. Rarement on a vu les détails du contenu de qui et qu'est-ce qu'ils ont créé cette Renaissance islamique. Partout où vous allez dans le monde arabe, vous voyez un hôpital Ibn Sina, Avicenne, ou l'hôpital Al-Kindi, ou l'école Al-Kindi, ou encore l'hôpital Arazi, ou l'école Arazi. Combien d'Arabes ou de musulmans réellement connaissent les contributions scientifiques et philosophiques par leur propre civilisation? Et dans quelle atmosphère ces contributions ont été pensées, créées et réalisées? Évidemment, ce sera impossible de résumer ceci ici parce que les gens n'ont pas fait leur devoir pour répondre à ces questions. Je fournis ici quelques pistes et j'incite les gens à faire leur devoir de vraiment découvrir le monde islamique et vu ce qui a été fait aux sociétés musulmanes et les musulmans et d'autres minorités vivant avec eux, il faut vraiment pénétrer ce domaine. J'ai écrit dans le hier et dans d'autres occasions, j'ai parlé de la Renaissance islamique qui allait du 8e siècle avec les Abbassides jusqu'au 13e siècle, qui a été l'apogée donc de cette période humaniste de la Renaissance arabe. Voilà, ce sont les lignes des échanges de commerce entre l'Irak jusqu'à l'Espagne des Umayyades. Et vous voyez la densité de villes, de grandes villes. Aujourd'hui, il y a moins de grandes villes dans ces régions que ce que vous voyez sur cette carte. Voilà où la civilisation islamique, où elle s'est répandue, qui allait donc quasiment de la Chine jusqu'à l'Espagne, grâce à la route de la soie, l'élargissement, les échanges scientifiques ont pu se faire, qui est entre la Chine, l'Europe et le monde islamique. Ça vous donne une image. Ce n'était pas seulement quelque chose d'arabe. Bien que l'arabe était la lingua franca, la langue la plus utilisée, entre les frontières de la Chine jusqu'à l'Espagne. J'oserais même dire que la Renaissance islamique n'était pas tellement un phénomène religieux, bien que c'était basé sur les enseignements de l'islam qui demandait aux croyants de chercher la connaissance du berceau jusqu'au tombeau. La Renaissance islamique était plutôt un phénomène culturel absolument unique parce que ça a pu synthétiser ou résumer la culture arabe, perse, grecque, égyptien, indien, chinois et d'autres. À Bagdad, au IXe siècle, avec les Abbassides, il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs, des scientifiques et des traducteurs dans ce qu'on appelait les maisons de la sagesse, travaillaient ensemble sans préjugés pour traduire les textes grecs, indiens, en farsi, en chinois et d'autres dans des manuscrits philosophiques et scientifiques. La même chose a eu lieu sous les Omeyyades à Cahordou, en Andalousie, en Espagne. Pour donner une idée métaphorique de cette synthèse fantastique, j'ai choisi donc cette image. Oui, c'est un automate.
It's called the elephant clock.
Et ça s'appelle l'horloge éléphant. En fait, c'est un clepsydre, c'est-à-dire une horloge qui fonctionne avec l'écoulement de l'eau. Et voilà, c'est décrit donc par un scientifique qui s'appelait Badi Uzaman al-Jazari, qui vivait de 1136 à 1206 dans la région d'Al-Jazira. Al-Jazira veut dire l'île. Il s'agit de la terre entre le Tigre et l'Euphrate. C'est donc l'époque de Saladin. De cette dynastie. Al-Jazari était un vrai esprit universel, érudit, mathématicien, artiste, artisan, musicien, ingénieur, spécialiste de la mécanique, etc., fondateur de la robotique. Il a quasiment fait des travaux sur tous les sujets avant Léonard de Vinci. Il a aussi il a développé aussi des miniatures qui venant de la Perse et de la Chine. Son œuvre la plus connue, c'est le livre de la connaissance et des machines mécaniques. En fait, ça disait plutôt, le titre d'origine, c'était plutôt combiner la science et les travaux utiles de la mécanique. Il a décrit plus de 100 inventions mécaniques et lui les a dessinées avec des instructions comment construire donc ces outils. Maintenant, l'introduction de la production de papier qui est venu de l'Ouzbékistan et de Samarcande, de la route de soie, vers la Chine et donc vers Bagdad. Ce qui est intéressant pour moi et pour nous, ce n'est pas tellement les machines en tant qu'objets mécaniques, mais la méthode de pensée qui est derrière, qui est une métaphore fantastique pour la vraie culture, le dialogue des cultures. Al-Jazari avait dans son esprit le vrai message de l'islam, qui est justement ce dialogue des cultures. Mais regardons un exemple, donc avec ce jouet, qui est cet automate, cette horloge éléphant. C'est 45 mètres de haut. C'est mis dans un palais. Il y a un phénix sur le toit, un oiseau, qui bascule. Il y a une boîte avec 12 balles mécaniques, avec les 12 heures donc, du jour. Il y a cette figure là sur le devant qui va aussi basculer de gauche à droite. Là, à côté, il y a deux faucons. Là, vous avez un dragon chinois. Il y a deux dragons qui basculent aussi. Donc, c'est dans un clepsydre. Là, vous avez une figure avec un marteau et un symbole. Et bien sûr, il y a l'éléphant. Là, en bas, est assis un scribe qui décrit les minutes de l'heure et qui est en rotation. En fait, la boule en mécanisme fonctionne. À l'intérieur de l'éléphant indien, donc, il y a un bassin d'eau et il y a un petit réservoir à l'intérieur avec un trou. Et le petit réservoir, en fait, se remplit. Et à force de se remplir, finit par descendre donc, lui-même dans le grand bassin. C'est connecté avec une corde qui fait qu'il y a une des balles en haut, donc, provoqué par la corde fait que l'oiseau va rotater, va tourner, et donc ça fait un bruit. La boule passe par la bouche d'un renard qui tombe dans la bouche du dragon, qui lui bascule. Donc, à cause du bois, fait que la boule tombe en bas, qui fait que le monsieur avec son marteau, il tape sur une cymbale. C'était pas un symbole, c'était une cymbale. Ce qui fait que le seau en bas, le petit réservoir remonte en bas, qui fait que la boucle est faite. Donc, tous les heures, il y a un cycle complet de l'automate qui fait l'ensemble de son série de mouvements. Donc, le génie mécanique n'est pas évidemment le sujet. Al-Jazari consciemment a mis un phénix donc sur le toit, qui vient de la mythologie égyptienne ancienne. C'est la divinité de Bennu.
Egyptian mythological Bennu,
figure mythologique de l'Égypte.
This is an Islamic guy.
Ça, c'est un type islamique. Là, le dragon étant la Chine.
This figure is an
cette figure, c'est un Indien. Et l'éléphant indien, bien sûr.
Symbolise
aussi l'Inde.
The scribe is a Muslim who's learning.
Et le scribe est aussi un musulman qui apprend à lire et à écrire. Mais la technologie donc du clipsètre, c'est en fait grec. Ça vient de la Grèce antique. Et le phénix aussi est un peu grec. Donc l'ensemble, ce que vous voyez, c'est que toutes ces cultures ont travaillé ensemble pour faire marcher cette machine gigantesque qui est en fait le fruit de l'ensemble de cette coopération de ces cultures, de l'ensemble de la route de la soie.
Al-Jazari
consciemment a mis donc un phénix sur le toit, ce qui représente la mythologie égyptienne, mais qui aussi fait partie de la culture grecque. Comme vous le savez, l'Égypte et la Grèce, pendant des périodes, c'est quasiment une seule et même culture, comme on le comprend dans les dialogues de Platon et dans la collaboration entre Archimède et Ératosthène, qui était le doyen de la librairie d'Alexandrie. Le serpent ou les dragons symbolisent la Chine, l'éléphant et la divinité avec les cymbales réfère à l'Inde, et l'architecture et les meubles ou l'ameublement sont perses et arabes, tandis que la technique de l'eau sont grecques. Cette œuvre est d'une façon belle, efficace, incarne toute l'idée de la beauté de la culture islamique et l'esprit de la diversité, de l'unité qui dominait à cette époque. Le Saint Coran dit: humanité, humanité, en effet, on t'a créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. En effet, le plus noble de vous, ce sont les plus justes dans les yeux d'Allah. Donc la question pour nous, c'est que est-ce qu'on peut faire vivre cet esprit? Merci beaucoup.